Seigneur, la vie se trouve dans ta parole. La sagesse également. Et nous voulons, Seigneur, nous taire pour écouter cette parole qui nous vivifie. Dispose nos cœurs, Seigneur, et utilise puissamment ton serviteur qui va parler en ton nom ce matin. Que toute espèce ou tout esprit de distraction soit réduit au silence maintenant dans nos vies et dans nos pensées au nom de Jésus. Que tu règnes en maître absolu maintenant et que ton message pénètre nos cœurs et transforme notre manière d'être et notre manière de te servir. Fais-le Seigneur, nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Allons lire l'évangile du jour. L'évangile selon Luc, le chapitre 6, les versets 17 au verset 26. Luc chapitre 6, les versets 17 à 26. Je lis pour nous le texte dans la version Louis II. Il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de peuples de toute la Judée, de Jérusalem et de la contrée maritime de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs était guéri, et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Alors Jésus, levant les yeux sur ses disciples, dit : Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera, et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là, et tressaillez d'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel. Car c'est ainsi que leur père traitait les prophètes. Mais malheur à vous, riches, car vous avez votre consolation. Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Malheur lorsque les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait leur père à l'égard des faux prophètes. Amen.
Frères et sœurs, bien-aimés en Jésus-Christ, salut à vous et bonne écoute. Depuis quelques dimanches déjà, nous observons Jésus au cours de son ministère débuté en Galilée, dans sa région d'origine. À Nazareth, nous l'avons vu, là où il a été élevé, conformément à son habitude, il a prêché dans la synagogue. Là-bas, il a présenté le programme de son œuvre sur la terre. Mais, au lieu de l'accueillir comme celui qu'il est réellement, c'est-à-dire le sauveur du monde, ses frères n'ont vu en lui que le fils de Marie. Après leur avoir dit sans embâge que le prophète n'a jamais été bien reçu chez lui, il est descendu à Capernaum, une autre ville de la Galilée. Et c'est là qu'il va continuer son œuvre. Le jour du sabbat, il a délivré un possédé. Et contrairement aux Nazaréens, c'est-à-dire les êtres humains, l'esprit impur reconnaît en lui le Saint de Dieu. À la sortie de la synagogue, Jésus se rend au domicile de Pierre où il guérit sa belle-mère qu'il a trouvée fiévreuse. La réputation de notre Seigneur gagne du terrain dans toute la région. Après le coucher du soleil, les gens qui attendaient la fin du sabbat pour marcher amènent leurs malades à Christ et il guérit toutes sortes de maladies tout simplement en imposant les mains. Jésus poursuit toujours sa mission et il va de synagogue en synagogue et même en plein air, comme nous l'avons vu dimanche dernier au bord du lac de Génézareth, où il a permis à Pierre de faire une pêche qu'il n'a jamais connue de toute sa vie de pêcheur. Et cela après toute une nuit de pêche inutile. En permettant à Pierre de faire une pêche miraculeuse, il a prouvé qu'il s'occupe aussi de nos besoins matériels. Mais aussi, c'était pour symboliser que Pierre, c'était pour montrer à Pierre que désormais il va laisser la pêche des poissons pour devenir le pêcheur des hommes. Après avoir quitté Génézareth pour une autre ville de la Galilée, que Luc ne précise pas, il guérit un lépreux. Après cela, Jésus continue à enseigner. Et ce qui m'a impressionné ici, c'est que selon l'évangéliste Luc et les autres d'ailleurs, il trouvait toujours du temps pour communier avec son Père, pour prier, afin de rester unis, afin de rester en communion avec lui. Souvent, nous manquons du temps pour prier à cause de notre travail, ou tout simplement, parfois, à cause de notre paresse spirituelle. Ce comportement, comme nous le constatons également, nous rend faibles dans la foi. Imitons donc notre Seigneur et trouvons toujours du temps pour prier, même au lieu de service. Le Seigneur Jésus fait son travail. Il fait le travail pour lequel il est venu sur terre. Et sa réputation s'accroît. Les pharisiens et les docteurs de la loi venus de tous les coins de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem, peut-être provoqués par un mot d'ordre, venus de Jérusalem, se rassemblent, l'écoutent, enseignent, et leur haine ne fait que monter. Les chefs religieux ont donc décidé d'épier Jésus désormais pour trouver de quoi l'accuser afin qu'on le tue pour leur laisser le terrain libre afin qu'ils continuent de fourvoyer le peuple. Les choses n'ont pas changé de nos jours, n'est-ce pas? Celui qui dit la vérité est souvent un danger public et sa vie est en danger. En Galilée, le ministère de notre Seigneur va connaître véritablement son apogée. En effet, malgré que son activité offusque, dérange, met en colère les autorités religieuses, Jésus va choisir parmi ses disciples 12 personnes, 12 intimes à qui va donner le nom d'apôtre, mais pas sans avoir consulté son maître, son père. C'est, comme nous l'avons suivi, après toute une nuit de prière sur la montagne qu'il fait le choix de ses apôtres, de ces gens à qui il va donner une formation intense, accélérée, pour bientôt les envoyer en mission le moment venu. Ils iront dans le monde entier pour prêcher la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ seul. Ce sont ceux qui poseront les fondements de l'Église chrétienne. L'évangile de ce dimanche nous apprend qu'après avoir choisi ses apôtres, c'est-à-dire ses messagers, ses ambassadeurs sur la terre, il descend de la montagne où il était et il s'arrête sur un plateau. Sur ce plateau, les disciples et une grande multitude de peuples venus de toute la Judée et de Jérusalem et du littoral de Tyre et de Sidon l'attendaient. Alors que les chefs religieux en veulent à Jésus parce qu'il éclaire le peuple de la lumière divine, alors que les chefs religieux constatant qu'ils perdent peu à peu de leur autorité parce que les gens découvrent la vérité et les abandonnent, de toutes les contrées environnantes de la Galilée, on accourt, soit pour l'entendre, soit pour chercher la guérison de sa maladie. Oui, le Fils de Dieu était là. Le Fils de Dieu était là, car la puissance divine émanait de lui et guérissait les malades. À partir de ce plateau, le Seigneur Jésus va donner une des grandes instructions de son ministère. On a appelé cette instruction « Sermon sur la montagne » parce que Matthieu l'a appelé, Matthieu a dit qu'il a délivré ce sermon à partir de la montagne. Mais quant à Luc, il a placé Jésus sur le plateau. Et c'est pourquoi on a encore appelé ce sermon, sermon sur le plateau. Nous allons donc entendre ce matin le sermon sur la montagne et sur le plateau. Ou sur le plateau. Sermon sur la montagne ou sur le plateau. Comme vous voulez. Choisissez. Jésus se trouve donc sur le plateau. Le sermon sur le plateau ou sur la montagne rassemble chez Luc et chez Matthieu et chez Luc des sentences, ou mieux, des vérités divines que les pères de l'Église ont appelées les béatitudes. Ce nom est tiré d'un adjectif latin, de l'adjectif latin beatus, c'est-à-dire heureux. Les vérités que nous découvrons à travers le sermon de notre Seigneur décrivent la condition Le téléphone doit s'arrêter. Le sermon sur le plateau rassemble donc des vérités divines. Ces vérités divines, ces vérités de Christ fixent une fois pour toutes les normes de notre conduite, les normes de la conduite chrétienne. Nous devons savoir, frères et sœurs, qu'il y a un contraste, une opposition entre la vie du disciple et celle des non-chrétiens. Une vraie et une fausse piété. La vraie humanité et l'humanité des philosophies. Il y a également un contraste entre les valeurs du royaume de Dieu et les valeurs terrestres. En effet, le monde offre des valeurs auxquelles les gens s'accrochent, parfois même certains chrétiens. Mais ces valeurs terrestres sont éphémères et ne satisfont pas l'âme. C'est pour cela que même si l'on a tous les biens terrestres, mais sans que Christ ait sa place dans le cœur, sans avoir la vie éternelle, on est malheureux. Si on a tous les biens terrestres sans Christ, on est malheureux. Les béatitudes commencent par « Heureux, vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. » Matthieu parle de pauvres en esprit, tandis que Luc parle de pauvres matériels, sur le plan matériel. Mais qu'en est-il? Qu'est-ce que ça veut dire? Je tiens d'abord à souligner que même parmi les chrétiens, la richesse, la réussite sociale, les grands titres sont les signes qu'on a la faveur de Dieu, tandis que la pauvreté est une indicatrice de la malédiction divine. Ici, Jésus dit que les pauvres, ceux qui ont faim, ceux qui sont maltraités, ceux qu'on hait parce qu'ils sont ses disciples, sont heureux car le royaume de Dieu est à eux. Mais je tiens à dire que ce n'est pas parce qu'ils sont pauvres qu'ils sont heureux. Ils sont heureux parce qu'ils ont su se détacher des joies éphémères de la terre pour laisser Christ régner seul dans leur vie. La pauvreté n'est donc pas une source de bonheur en soi. Le pauvre n'est pas heureux ou sauvé parce qu'il est pauvre, mais parce qu'il a su se détacher des biens terrestres pour attendre la promesse de Dieu, la vie éternelle. Le riche non plus ne peut pas être heureux tout simplement parce qu'il est riche. Il y a des riches malheureux qui ne rient pas, qui ne chantent pas, qui ont besoin de se saouler la gueule presque tous les jours pour noyer leurs soucis. Il y en a même qui se droguent. Certains sont même devenus riches ou ont réussi à avoir des gros titres dans la société en entrant dans toutes sortes de sectes et de loges à la solde de Satan. Qu'on soit donc pauvre sur le plan matériel, qu'on soit pauvre sur le plan matériel ou riche, on doit être pauvre en esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Être pauvre en esprit, c'est-à-dire être capable de se détacher des biens terrestres pour attendre le meilleur de Christ seul. Pour attendre le meilleur après la mort. Dieu, il faut savoir se détacher, il faut savoir éviter de faire de l'argent son Dieu. Il faut éviter de chercher sa satisfaction tout simplement dans les biens terrestres ou dans les titres terrestre. Il y a des riches qui ont accumulé de l'argent pour adorer au lieu d'adorer Dieu. Pour cette raison, cet argent est leur seule récompense. Mais il y a des riches et des pauvres qui sont sauvés et qui sont heureux parce qu'ils attendent le vrai bonheur dans le royaume de Dieu. Frères et sœurs en Christ, n'oublions pas que Jésus, au moment où il enseignait, avait devant lui, en première ligne, ses apôtres, ceux-là qui avaient pour première préoccupation en venant à Jésus le salut de leur âme et l'évangélisation et non les richesses. Ils ne seront pas, bien entendu, des misérables, car on ne peut pas servir Dieu l'estomac au talon et avec une famille qui mendie son pain. Puisque l'ouvrier mérite son pain. Mais ses disciples, ses apôtres devront savoir que personne ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera le premier et haïra le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Les disciples auront des tribulations. Ils seront haïs. On les rejettera comme mauvais à cause de ce qu'ils appartiennent à Christ. Même quand on prononcera son nom, les gens fermeront les oreilles. Parce que ils appartiennent à Christ. Bref, ils subiront les persécutions. Ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas seulement à ce moment-là. Aujourd'hui encore, les vrais disciples subissent les persécutions. Les disciples ont des tribulations. Ils sont haïs. On les rejette comme mauvais, parce qu'ils dise la vérité, la seule vérité qui tienne, c'est-à-dire la parole qui vient de Dieu. En effet, les persécutions font partie d'une vie chrétienne vécue selon la volonté de Dieu, car même les prophètes de l'Ancien Testament ont connu le même sort. Beaucoup de riches sont arrogants et voient tout le monde sous leurs talons. Certains d'entre eux croient avec leur argent, en donnant beaucoup d'argent à Dieu et même au pasteur, en construisant parfois tout seul. Il y a certains individus riches qui construisent tout seul toute une église, mais sans donner le cœur à Dieu, tout simplement pour leur publicité, pour sa publicité. Ils sont d'accord, ces riches, qu'avec ceux qui chantent leur mérite, leur tu référais. Voilà le danger des richesses. Bien-aimés en Jésus-Christ, ce que je voudrais vous dire ce matin, c'est que, sans considérer comme un poison, ni idolâtrer les richesses, nous devons faire de l'argent le serviteur et non notre maître. La pauvreté n'est pas non plus une malédiction, mais peut-être il peut même être, on peut même choisir d'être pauvre pour éviter d'idolâtrer les richesses afin de mieux nous consacrer au service de Dieu. Amen.